Vous êtes directeur de l'Institut médico-légal de Liège, membre de l'Académie royale de médecine de Belgique. Vos derniers ouvrages, enfin vos ouvrages parus en France, Entretien avec un cadavre et celui-ci, Les morts ont la parole, sont des succès de librairie dingue. Comment vous l'expliquez? On est, nous, Français, atteints par une espèce de curiosité morbide? Ou quoi?
Non, je crois que la mort a toujours séduit, a toujours intrigué. Et ici, on voit comment certaines personnes meurent. J'explique surtout comment on meurt dans telle et telle situation. Et je crois que ça intéresse. Et puis, je contextualise ça. Alors, vous devez savoir que le fond médico-légal est totalement vrai, mais autour, c'est un peu romancé, hein, pour ne pas qu'on reconnaisse exactement l'histoire.
Encore heureux. On en parle dans un instant, mais d'abord, votre portrait, Philippe Boxo, votre nom, ça veut dire?
Le possesseur de Châtaignier.
Eh bien voilà, on a appris un truc. En wallon, bien sûr. Votre portrait, Pariel Legras.
Prêtre, la médecine légale, des livres, c'est la règle de Troie de Philippe Boxo. Enfant, il s'imagine devenir prêtre. Il étudie au centre scolaire catholique Saint-Servais de Liège. L'été, il se rend dans les Hautes-Pyrénées, se met au service de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes et accueille les pèlerins. J'adorais étudier l'évangile, rencontrer les gens, aider ceux qui en avaient besoin et je me sentais prêt. Un jour, il en parle à l'évêque de Liège, Monseigneur Guillaume-Marie van Zwillen, qui lui conseille d'aller à l'université avant de prendre sa décision. Après sa première année de médecine, il revoit l'évêque de Liège et lui dit qu'il renonce à la prêtrise. Depuis, il est même devenu athée. Je regrette de ne pas avoir la foi, c'est tellement beau l'espérance. Médecin généraliste, il s'intéresse à la médecine légale en 1991. Petit à petit, il se prend de passion pour la discipline. 10 ans plus tard, il dirige l'Institut médico-légal de l'Université de Liège. En 1999, il autopsie des corps dans les charniers de Milosevic au Kosovo. On nous a proposé l'appui de psychologues, mais on n'en a pas eu besoin. Un mort, c'est un mort. Au cours de sa longue carrière, il assiste parfois à des scènes étonnantes. Un jour, la police l'appelle pour étudier un cadavre dans un appartement à Liège. L'un des policiers tente d'identifier le mort, pas tout à fait mort.
Vous avez le policier qui passe la main entre le sol et le cadavre. Enfin, jusque-là, c'était encore un cadavre. Il arrive dans la poche du bonhomme, il prend le portefeuille, il est en train de le retirer. Et à ce moment-là, il y a le cadavre qui lui a attrapé le bras.
Depuis, il a partagé son expérience dans 2 livres, Les morts ont la parole et Entretien avec un cadavre. Il évoque les décès suspects ou revient sur des histoires qui l'ont marqué, comme celle de cette jeune femme qui a criblé le corps de son père de plusieurs balles, mais n'a pas été inculpée.
Elle vide le chargeur, le papa, il est au lit, c'est la nuit, elle croit qu'il dort, elle vide le flingue, il y a une balle qui traverse le cœur, effectivement, elle l'aurait tué. Oui, mais l'autopsie montre qu'il était déjà mort. Il avait fait une rupture d'anévrisme cérébral durant la nuit, donc il en était mort.
Dans Entretien avec un cadavre, il confesse « Je préfère rire de la mort avant qu'elle me sourie un jour ».
Philippe Boxo, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon médecin légiste ?
Être très observateur. Ouais. Très observateur. Il faut vraiment relever tous les détails et ensuite les interpréter. Et surtout, ne pas imaginer que l'on sait dès que l'on a trouvé le moindre détail et que l'on a déjà la cause du décès. Il faut aller jusqu'au bout, tout analyser pour ensuite en déduire une cause de décès, pas autrement.
Lorsque vous pratiquez une autopsie, vous portez des gants de vaisselle, rose, MAPA ?
Oui, mais je préfère les jaunes.
Ah bon ? Non, enfin, c'est quand même des gants de vaisselle.
C'est une blague, c'est des gants de vaisselle.
Rose, des gants de vaisselle, pas des gants chirurgicaux, on pourrait
dire.
Non,
ils sont beaucoup trop fins, beaucoup trop fragiles. Ils se cassent tout de suite. Quand vous rentrez dans un corps et que vous êtes dans une ambiance de cage thoracique avec des côtes éventuellement fracturées, passez vos mains sur les côtes pour sentir si elles sont cassées ou pas. Si vous mettez un gant de chirurgie, il va nécessairement céder. Mmh. Ce n'est pas le bon endroit pour céder.
Vous êtes un drôle de personnage, un drôle d'homme, parce qu'on sent que vous êtes intéressé par vos frères humains. Et en même temps, vous dites « je n'étais absolument pas fait pour soigner ».
Non, j'aime pas entendre les gens se plaindre.
Vous les préférez morts que vifs.
Mort, je préfère faire parler à mort que d'entendre un vivant qui se plaint. Donc voilà. Pourquoi ? Parce que la médecine aujourd'hui n'est pas capable de tout guérir, de tout soigner. Elle est capable de donner pas mal de soins, mais pas exactement de tout guérir. Et pour moi, c'était très pénible d'avoir des gens qui revenaient en consultation avec des maux pour lesquels je ne pouvais pas faire grand-chose.
Mais dites, votre première autopsie, vous n'avez pas eu la nausée ?
Non.
Quel souvenir vous en gardez ?
Excellent. J'ai beaucoup aimé. C'était
en été ou en hiver ? Parce qu'il y a aussi un truc avec les effluves et la saison.
Si je me souviens souvent, c'était du côté du printemps. Mmh. C'était un type sur l'autoroute qui avait été projeté hors de la voiture. La voiture a fait un choc frontal avec la bande centrale de l'autoroute. Hein. Elle a pivoté, puis bam, bande centrale. Il n'était pas attaché. Il était sur le siège passager avant. Il est passé par la portière. Et il a été décapité par la berne centrale.
D'accord.
Donc la tête a roulé un peu plus loin. Et puis j'ai retrouvé la tête, j'ai retrouvé le corps, on a autopsié, voilà. Mmh. C'est mon premier.
Vous avez l'air de cultiver une sorte de folie douce, ou peut-être que quelqu'un qualifierait d'humour belge, une sorte d'humour noir, mais en même temps, l'empathie est absolument indispensable pour le médecin légal ?
Oui.
Ou vous avez une forme de distance par rapport à ce qui n'est plus qu'un corps ?
Par rapport au cadavre, il faut avoir une distance. nécessaire, parce que si vous avez une empathie avec le cadavre ou une émotion par rapport à lui, ce qui va se produire, c'est que vous perdez votre neutralité. Et si vous perdez votre neutralité, vous allez vous trouver dans une situation un peu intermédiaire où vous risquez de ne plus être suffisamment objectif. Or, le droit pénal, les juges ont besoin d'objectivité pour éventuellement condamner quelqu'un ou pour ne pas le condamner, ça dépend. Mais voilà, c'est une nécessité absolue. Donc, par rapport au cadavre, je n'ai pas d'empathie, j'en ai jamais eu. Je le traite avec respect et c'est une circonstance obligatoire chez nous, chez tous les juges du monde d'ailleurs. Mais par contre, je ne veux pas voir la famille, je préfère plutôt ne pas voir la famille avant. Je veux bien la voir après, parce qu'à ce moment-là, le cadavre devient personne. Il devient personnalisé, vous voyez ?
Un sujet, quoi.
Il devient un sujet d'un objet de travail, il devient un sujet d'amour de la part de sa famille. C'est quelqu'un qui a vécu, on découvre sa vie, on découvre ses enfants, on découvre sa vie, quoi, ce qu'il était. Et ça, c'est difficile parfois de...
Vous formez des gens, vous avez des assistants, et vous leur dites, il vaut mieux venir faire des stages en été pour voir si vous serez capable d'être médecin légiste et de pratiquer des autopsies plutôt qu'en hiver. Pourquoi ? À cause des effluves corporelles ?
Oui.
C'est à ce point-là saisissant ?
Ah, c'est terrible. Oui. Ah, c'est vraiment terrible. Vous le sentez une fois, vous le sentez à vie. En plus, c'est une odeur qui est tellement prégnante que elle va, vous allez avoir en bouche aussi, elle va se mélanger à votre salive. Donc vous allez la goûter. Et je vous assure que c'est une odeur... Écoutez, on m'a appelé dernièrement pour ce qui était un cadavre, effectivement, mais peut-être parce qu'on pensait au bord d'un chemin. J'arrive sur place, c'était en plein air. En sortant de ma voiture, c'était pas très loin, à l'odeur, j'ai dit, c'est pas humain. L'odeur humaine est très spécifique. C'était une odeur animale, et effectivement, dans le sac se trouvait un chien et pas un bébé, contrairement à ce que pensaient les autorités policières. Donc, mais par rapport à un humain, c'est un point tel que moi, je ne sais plus manger de viande qui soit un peu faisandée. Vous savez, la viande macérée, comme on dit aujourd'hui, c'est une viande qui coûte très cher, en plus. Moi, c'est pas possible, c'est juste pas possible.
Néanmoins, vous ne ramenez pas la mort à la maison. Vous dites, je ne ramène pas la mort à la maison.
Jamais.
On va évoquer avec vous, Philippe Boxeau, et avec Anna, le fait qu'on peut faire aujourd'hui l'apprentissage de l'anatomie de manière virtuelle, sur des écrans.
Oui, pour les étudiants de deuxième année en médecine, fini la dissection de cadavres, fini les odeurs et les malaises pour les plus sensibles, car il existe désormais une table de dissection virtuelle. Et c'est une petite révolution. Concrètement, regardez, il s'agit d'un écran géant tactile de la taille d'une table d'opération. Le corps du patient décédé apparaît en 3D. On peut le faire pivoter, zoomer dans certaines parties du corps. On peut même trancher des épaisseurs de peau avec un bistouri tactile, bien sûr. Et puis voir aussi toute l'anatomie en transparence. Et en France, plusieurs facultés de médecine l'ont déjà adopté. Vous, Philippe Boxeau, c'est la même chose de disséquer un cadavre que de le faire sur ce type de tablette ?
Non, pas du tout. C'est le jour et la nuit, le corps, vous avez un contact physique, contact charnel, en fait, avec un corps qui ressemble à une poupée de cire, parce qu'il a été injecté par du formol, qui fixe les tissus pour ne pas qu'ils putréfient en pleine dissection, parce que la dissection, ça prend du temps. Et là, on va à la recherche de chaque petite structure. Et l'effort intellectuel que l'on fait en disséquant, c'est d'identifier chaque structure. Vous les retenez bien mieux quand vous les avez cherchées que quand on vous les montre. Et donc, la démarche de faire une dissection anatomique sur un cadavre, j'allais dire vivant, un vrai,
on a compris,
plutôt que sur une planche telle que vous la voyez là, qui est une merveille de technologie, attention, c'est une merveille de techno, c'est différent.
Vous n'allez pas la retenir de la même manière.
Comment ?
Ça va faire de moins bons médecins à la
vie. Ah non, sûrement pas. Ah non, ça, non. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même expérience. Et ce n'est pas le même type d'apprentissage, ce n'est pas le même type de raisonnement. On est dans autre chose. On veut nous faire la même chose en médecine égale, c'est-à-dire faire des autopsies virtuelles. Pourquoi ?
Comment faire des autopsies virtuelles ?
De la même manière, mais ce sont sous forme de scanner. Donc vous passez le corps dans un scanner, on le coupe, on le coupe virtuellement. Les images, c'est des images en coupe. Vous avez déjà vu un scanner. Et donc pouvoir regarder au scanner quelles sont les lésions présentes. Ce n'est pas la même chose. Il faut quand même autopsier parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas au scanner.
Alors ça regorge d'histoires stupéfiantes, ce livre. On l'a lu, on était en effet très impressionnés. Par exemple, l'histoire du jogger et de la tondeuse à gazon quand un meurtre s'avère en fait être un accident. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ?
Phénoménal.
C'est un monsieur qui se promène dans un petit chemin encaissé, vous voyez. D'un côté, il y a un jardin, un peu hauteur de sa tête en fait. On va tout de suite voir pourquoi. Et puis de l'autre côté du chemin, c'est un petit bois qui commence en aplomb. On imagine mal quelqu'un descendre du petit bois pour venir tuer le bonhomme et on imagine mal quelqu'un aussi venir par derrière, attendre qu'il soit au milieu du chemin pour lui courir après sans qu'il se retourne et lui couper la gorge. Donc on avait un petit problème avec ça. En plus, la lésion que j'avais à hauteur du cou était une lésion très sale, c'est-à-dire un coup de couteau en général c'est très net. Et là, la lésion que j'avais, c'était une lésion qui était plus large qu'un coup de couteau. Donc forcément quelque chose de délabré, on va le dire comme ça. je ne voyais pas du tout quel était l'instrument qui avait donné ça, et je me réjouissais même de le trouver pour comprendre comment il avait pu le donner. Mmh. Bon, pour tout le monde, ça paraît un peu... Mmh. Mais c'est le travail de légiste. Et puis, voilà, l'enquête piétinait quelque peu. On est retourné sur place avec les enquêteurs, avec les gens du labo. Et le monsieur à qui appartenait le jardin, en latéral droit, là, par rapport au corps, m'interpelle. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je commence à parler avec lui. Moi, un chien avec un chapeau, je parle avec, hein, il n'y a pas de problème. Donc, j'entame la conversation. Il a le même tracteur tondeuse que moi. Bon, il tombe en panne tout le temps. Ah. Il parle de son tracteur tondeuse. Et puis, il me dit, ce jour-là, figurez-vous, il est tombé en panne. Elle dit, ah bon, et il a eu quoi? Ah ben, j'ai touché une pierre et la lame s'est cassée. Et là, ça fait tilt.
Voilà. Donc c'était la lame.
La lame, c'est
le morceau de lame qui était parti et qui avait traversé le terrain.
Philippe Boxeau, expliquez-nous pourquoi un médecin légiste doit être aussi un peu entomologiste, c'est-à-dire connaître les insectes. En quoi connaître les insectes vous aide à dater la mort du corps que vous autopsiez?
Les insectes sont attirés par des odeurs. Spécifiques sur le corps. L'odeur du cadavre n'est pas la même aux différents stades de la putréfaction, donc de l'avancée du corps vers la disparition. Donc on va voir apparaître des insectes. Ces insectes se développent sur le corps. On connaît très bien ces insectes. C'est un Français qui a mis cette technique au point en 1851. C'est un vétérinaire français qui s'appelait Ménia. Et puis il a été complètement oublié. En 1870, il y a eu la guerre avec la Prusse, et puis il y a eu la guerre 14, et puis il y a eu la guerre 40. Enfin bref, il a été complètement oublié. Et c'est un Belge qui l'a ressuscité, qui habitait Liège, de ma ville, qui s'appelait Marcel Leclerc. Et c'est lui qui a réappris aux Français une technique que vous aviez oubliée, qui a appris cette technique aux Américains. Il l'a appris partout, en fait. Et c'est tout con, mais il faut savoir le faire. Ah, oui. En fonction de l'évolution des mouches, on sait depuis combien de temps le type est mort.
C'est si simple.
Voilà.
Hein, Philippe Boxeau, vous allez faire paraître, là, je crois, fin août, La mort en face.
Oui.
Et puis peut-être que votre prochain bouquin, ça sera sur le Saint-Suaire. Je crois que
j'aimerais bien. J'aimerais bien.
Ah oui, vous avez des révélations?
Non. Mais je fais une somme de cela, et notamment des dernières découvertes historiques de Jean-Christian Petit-Fils, hein, qui a fait un excellent livre sur le Suaire de Turin.
Très bien. Mais en attendant, c'est fin août,
oui.
La mort en face.
Absolument.
Et puis Entretien avec un cadavre et Les morts ont la parole, des succès de librairie phénoménaux, il faut dire, en tout cas en France. En Belgique aussi.
Inattendu.
Inattendu, c'est meilleur, c'est plus délectable. Merci Philippe Boxeau.